dit. Un show concis.
You know, and for sure, I think...
Un show qui va droit au but.
I don't have a time limit.
Un show qui se perd pas.
Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
Ça s'est réchauffé un peu, les amis. C'est 18 degrés sur Québec. Je pense aux travailleurs extérieurs qui doivent être très contents de cette température-là parce qu'il n'y a pas le fameux facteur humidex aujourd'hui. Donc, vous devez passer une super de belle journée. Donc, on pense à vous autres. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de 10 degrés. Pour ce qui est de demain mardi, ce sera nuageux avec un maximum de 19 degrés. Mercredi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 21. Jeudi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 25. Et vendredi, pour terminer la semaine, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 24 degrés. Donc, si j'en crois, Environnement Canada, pas de pluie de prévu pour cette semaine. C'est la bonne nouvelle. Pascal, je ne sais pas si tu as vu dans la presse depuis déjà quelques semaines, il y a plein de dossiers qui touchent l'immigration temporaire, les travailleurs temporaires et tout ça. Puis ça semble bien stresser ces gens-là qui sont venus ici pour améliorer leur sort, visiblement. On va parler avec un avocat dans les prochaines secondes, mais on nous dit que les processus d'obtention de résidence permanente, exemple, ça s'est ralenti, ça s'est hyper complexifié. Et pour ces gens-là, bien, ça prend absolument un avocat pour essayer de se sortir de tout ça avec la paperasse qui peut être compliquée. Les avocats, eux autres, sont bons avec la paperasse. Et les travailleurs peu qualifiés vivent un peu dans le stress, c'est ce qu'on nous mentionne. On en jase avec Maître Maxime Lapointe, qui est avocat en droit de l'immigration au Québec et au Canada, du bureau Maxime Lapointe et Associés. Bonjour Maître Lapointe, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, merci.
Ça va très bien, nous autres aussi, de notre côté. Maître Lapointe, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle, vous êtes là pour libérer un peu moins de stress pour ce qui est des immigrants, parce que vous décomplexifiez l'affaire en nous expliquant tous ces processus-là. Où est-ce qu'on en est rendu, puis pourquoi on a le droit à plein d'articles dans la presse concernant les immigrants qui sont stressés ces temps-ci?
Ben, à pareille date, l'an dernier, le fédéral a annoncé en conférence de presse au début du mois de septembre qu'il allait resserrer les règles dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc qu'on allait revenir à une limite de 10% de travailleurs étrangers. Puis au Québec, on avait une liste de 275 professions environ qui étaient éligibles à un traitement simplifié. Ça veut dire qu'ils étaient exemptés de la limite de 10% ou 20% là, au fil des années, ça a évolué. Donc, il y avait des entreprises qui avaient peut-être 30, 40, 50% de travailleurs étrangers qui ont été recrutés souvent dans le cadre de missions de recrutement international payées avec des fonds publics. Et là, quand le fédéral a resserré la vis, ben, on a des permis de travail qu'on peut plus renouveler dans plusieurs entreprises parce qu'on a une limite de 10%, mais elle est largement dépassée. Donc là, pourquoi il y a autant d'articles à ce temps-ci de l'année? C'est que la mesure qui est en vigueur depuis le 26 septembre 2024, ben, commence à avoir des effets parce que les gens avaient déjà un permis de travail valide pour un an, deux ans, trois ans. Donc, plus le temps avance, plus les permis de travail vont être à renouveler et plus ça va être impossible de renouveler. Donc, les médias essaient de faire un peu de pression pour que le gouvernement change d'avis. Le gouvernement du Canada, apparemment, s'est fait poursuivre dans les dernières semaines. On verra ce que ça donne. Le Québec, lui, a demandé finalement au Canada d'avoir une clause grand-père pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, ça risque de bouger dans les prochaines semaines.
Dans votre cas, vous, Maître Lapointe, vous discutez tant du côté des employeurs que des employés puis des immigrants qui sont venus ici travailler de façon temporaire, c'est ça?
Oui, oui, on représente autant des entreprises que des particuliers qui veulent demander éventuellement la résidence permanente, mais quand on doit renouveler un permis de travail, on traite plus avec l'employeur. C'est lui qui nous mandate, parce qu'il faut comprendre que c'est illégal de faire payer le travailleur là, dans le cas d'une demande déposée dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, les droits des travailleurs sont protégés. Les travailleurs, je vous dis pas que des fois, ils veulent pas payer eux-mêmes, mais là, on est plus pris avec une limite de 10% de travailleurs étrangers. Je vais te donner un exemple. Un restaurant de type cage au sport qui aurait 100 employés avec peut-être 30 cuisiniers, exemple, il y aurait 30% de travailleurs étrangers. Donc, les 20 prochains permis de travail qui viennent à échéance pourront pas être prolongés. Et avant qu'on puisse embaucher un nouveau travailleur étranger, il faudra être en bas de 10 cuisiniers dans ce fameux restaurant-là qui aurait 100 employés. Donc, c'est l'hécatombe là, pour les entreprises. Les règles ont changé trop vite avec trop d'ampleur.
Puis là, c'est des employés de partout, là, parce que Moi, le salon coiffeur où je vais, il y a des Français, il y a des gens qui viennent du Maroc, il y a plusieurs cultures qui se côtoient. Puis ça fait deux fois que j'arrive, puis ah, cet employé-là n'est plus là. Ben non, il a dû retourner dans son pays, justement, vu le processus d'immigration. Mais quelqu'un qui était bien, bien, bien implanté depuis longtemps, genre, je pense à une autre Française qui est là, qui elle a comme un risque de, puis elle est vraiment stressée parce que ça fait des années qu'elle est là, son mari est ici, elle est stressée de ça, là.
Ben, exemple, un salon de coiffeur, c'est un bon exemple. Une entreprise qui a moins de 10 employés, elle a le droit à un travailleur étranger. Et avant le mois de septembre 2024, elle avait le droit à deux. Donc, moi, j'en représente un, justement, un salon de coiffure, qui a deux travailleurs étrangers, dont les permis de travail vont venir à échéance dans la prochaine année. Puis, elle pourra pas prolonger le permis du premier travailleur dont le permis vient à échéance, parce que sa limite de un travailleur va être dépassée. Donc, il y a ça. Il y a aussi beaucoup de Français qui arrivent avec le programme Expérience internationale Canada qui donne un permis de travail de 2 ans pour des Français de 18-35 ans, le fameux PVT, permis vacances-travail. Ça, c'est un permis qui se renouvelle pas. Donc, moi, j'en ai 3 par semaine dans mon bureau, des gens qui me disent « Bon, je suis arrivé avec un permis vacances-travail, je voudrais le prolonger, qu'est-ce qu'on fait? » Donc là, on fait la même mathématique. Est-ce que l'employeur a de la marge de manœuvre dans son 10% de travailleurs étrangers? Si oui, ben, on continue la réflexion, puis sinon, ben on arrête. Puis maintenant, il faut afficher le poste pendant 30 jours, montrer au gouvernement qu'on n'a pas réussi à trouver des Canadiens. Donc, autant le Québec que le Canada, maintenant, resserre la vis pour... histoire courte, ils n'en veulent plus. Là. Les deux gouvernements, on n'a jamais eu autant de résistance quand on dépose des dossiers de travailleurs étrangers temporaires. Donc, on a vraiment resserré au maximum les étaux. Le gouvernement lui-même a arrêté les missions de recrutement à l'international, parce que moi, je leur disais justement en consultation publique en 2023, je disais, pourquoi vous continuez à aller recruter des travailleurs étrangers temporaires avec des fonds publics si vous trouvez qu'il y en a trop? Donc, il va y avoir un autre exercice de consultation publique au mois de septembre prochain. J'ai déposé un mémoire, puis je vais y aller de certaines recommandations dans la plupart des catégories, là.
Ben, dans votre mémoire, d'ailleurs, que j'ai sous la main, je trouve ça franchement intéressant parce que vous arrivez avec 10 recommandations en matière d'immigration. Est-ce que ça touche toutes les professions? Parce que, exemple, pour ce qui est d'un agriculteur qui est sur l'île d'Orléans, qui, lui, a des Guatémaltèques ou encore des Mexicains, est-ce que lui est à risque là, dans les décisions du gouvernement concernant l'immigration, les permis de travail et tout ça, ou eux autres, en agriculture, ben, sont protégés?
Pour le programme des travailleurs étrangers saisonniers, il y a d'autres règles. Il y a une liste de pays qui participent, il y a une durée précise, il y a beaucoup plus d'obligations de l'employeur par rapport au logement. Les dernières réformes dans ce programme-là, c'était qu'on va obliger les employeurs à afficher, montrer qu'on n'a pas réussi à trouver des Canadiens. Donc, ça va rajouter une couche administrative pour les entreprises qui disent « on n'en trouve pas des gens pour ramasser des fraises l'été ». Donc, on verra si ça tient la route à la rentrée. Ça, c'est toujours la même chose dans le programme des travailleurs étrangers, travailleurs saisonniers. C'est que les permis de travail, ça prend quand même certain temps justement à déposer les dossiers, à obtenir les autorisations. On arrive au mois d'avril, puis là, on dit, bon, mais là, mes travailleurs sont pas prêts à arriver parce que les permis sont pas encore approuvés. On l'a vu dans le domaine des pêches l'année en 2023. Il y a des usines qui ont fermé en Gaspésie parce qu'il y avait plus de travailleurs. Donc, c'est très rigoureux comme processus. Ça prend 3 autorisations, une de Service Canada, une du ministère de l'Immigration du Québec, puis une du ministère de l'Immigration du Canada, le tout avant que les fruits commencent à pousser.
OK, je comprends. Dans votre mémoire, vous parlez des 10 recommandations en matière d'immigration à mettre en œuvre dans les 100 premiers jours du prochain gouvernement du Québec. Pourquoi vous recommandez au gouvernement d'auditer, Pascal, le taux de survie des couples dans la catégorie du regroupement familial et revoir l'écoulement des demandes entre la sélection par le Québec et l'admission par le Canada?
Est-ce que tu saignes du nez, Yannick?
Ben non, mais c'est parce que je me dis, mais pourquoi mettre la pointe tient absolument à auditer le taux de survie des couples dans la catégorie de regroupement familial?
Ben, on a fait beaucoup des parrainages. On a fait peut-être 40 à 50 par année depuis plusieurs années. Donc, on voit que les délais de traitement augmentent à cause que le Québec dit au Canada, termine-moi 10 000 dossiers par année, mais il y en a 30 000, 40 000 dans la machine. Donc, l'inventaire augmente, les délais de traitement augmentent. On est à 40 mois dans la catégorie du regroupement familial. Donc, vous savez, j'ai déposé une poursuite en 2024 contre le gouvernement du Québec pour accélérer les délais de traitement de la catégorie-là. Donc, je veux aider, mais de l'autre côté, il faut quand même être conséquent puis dire la vérité. Là, c'est pas une catégorie extraordinaire dans le sens que c'est pas vrai que c'est toutes des belles histoires d'amour. Là.
Non.
Il y a des gens qui nous demandent de fermer le dossier en cours de route parce que les couples se lèvent. Il y a des gens qui nous demandent de fermer le dossier Mais c'est parce que ça doit être ardu. Fermer le dossier pendant qu'on est en train de travailler à monter le dossier.
Parce que c'est trop ardu, c'est trop difficile sur le couple, c'est trop stressant, c'est trop.
Un peu de tout ça. Tu sais, il y en a qui, ils sont pas. La documentation à fournir, ça les rebute, là. Mais les couples se lèvent aussi. Donc, c'est juste d'avoir un peu un audit, de savoir, OK, c'est quoi le taux de survie des couples dans les 5 dernières années? Ici, c'est 30% après 5 ans qui sont encore ensemble, mais il y aurait peut-être des sérieuses questions à se poser sur la légitimité de ce programme-là. Parce qu'on a beaucoup d'organismes qui défendent les couples, exemple Québec réunifié, là, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui disent c'est toute l'immigration parfaite, mais moi, j'ai les deux maintenant, puis je vous dis que non. Alors, c'est juste de s'assurer que les gens qui passent par le regroupement familial, ils demeurent encore ensemble une fois que le dossier est approuvé.
Puis que ce soit sérieux aussi, là, tu sais, des demandes faites par des hommes de 125 ans qui veulent faire venir leur cubaine de 18 ans, je veux dire, ça n'a aucun sens, mettre la pointe, là.
C'est des dossiers qui sont souvent convoqués en entrevue, là, justement, au bureau de la Havane, puis là, ils vont dire, dites-le donc que vous ne l'aimez pas, puis que dans le fond, vous faites ça juste pour avoir les papiers.
Fait au bureau de la Havane, les avocats demandent aussi rapidement que ça, de dire la vérité?
Pas les avocats, mais les fonctionnaires d'Immigration Canada, il y a des fonctionnaires dans le bureau, puis c'est vraiment la vérité, là, ils convoquent les gens en entrevue dans une petite pièce où il fait chaud, puis ils cuisinent pendant des heures pour essayer de faire sortir le méchant, puis dire, regarde, tu nous as montré que finalement c'est une relation qui est arrangée pour l'immigration. Puis il y a des processus sérieux, on peut aller en appel après ça, puis on peut aller en cour fédérale pour faire dire par un juge que la décision est déraisonnable, mais c'est pas tous des dossiers qui sont bien fondés, malheureusement.
Vous recommandez aussi un poste de commissaire permanent à l'immigration au Québec. En quoi ça pourrait améliorer votre travail puis l'immigration en général?
Bien, l'objectif, c'est de dépolitiser l'immigration au Québec. C'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui avance, qui recule selon les sondages, qui commande. Et puis, il y a des gens qui sont pris dans la machine administrative. Des fois, il y a des choses aussi qu'on se rend pas compte rapidement. Exemple, en 2022, le Québec a accepté environ 13 000 étudiants étrangers d'Inde pour des collèges privés dans la région de Montréal. Puis, il s'est rendu compte que finalement, c'était des gens qui venaient pas vraiment pour étudier ici. C'était pas vraiment des vrais programmes. Donc, il a demandé l'intervention du fédéral pour aller enlever le bonbon à la carotte, si vous voulez, à la fin de tout ça, qui est le permis de travail post-diplôme à la fin des études. Le Québec a dit au Canada, écoute, peux-tu enlever ça, s'il te plaît? Ça va dissuader les gens de venir étudier dans ces programmes-là qui sont complètement frauduleux. Donc, des fois, c'est trop long avant que la machine gouvernementale se rende compte qu'il y a des arnaques. Et si on avait un commissaire permanent à l'immigration, on serait capable de voir en temps réel, dire, OK, le mois passé, on a reçu, exemple, 5000 demandes d'admission pour l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est peut-être un peu louche. L'Université du Québec à Chicoutimi, c'est pas pour rien que je vous le donne en exemple. Ils ont accepté plus de 1000 étudiants avec des fausses lettres d'admission. Et avec la fausse lettre d'admission, ils ont réussi à avoir le certificat du Québec et le permis d'études par le Canada. Et les étudiants, ils arrivent à Chicoutimi, ils disent, bon, mais je serai là pour commencer l'école, salut. Et l'université dit, on vous connaît pas, vous avez été fraudé, c'est pas une vraie lettre d'admission. Donc, il y a toutes sortes de fraudes en immigration. Il y a quelqu'un qui aurait pouvoir un peu plus coercitif, une analyse, qui serait capable de détecter plus rapidement les dossiers qui sont pas légitimes.
OK. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut consulter votre mémoire, Maître Lapointe?
Pas encore. Vous l'avez en priorité. Là, je l'ai envoyé la semaine dernière à la commission parlementaire. Là, ça va être à partir de la mi-septembre. Ouais. Donc, moi, je vais présenter mon mémoire à partir de ce moment-là. Il va être rendu public. L'objectif, c'est qui le prochain gouvernement qui est élu en octobre 2026 après les élections générales. Voici les 10 choses à faire, à mon avis, là.
Donc, la planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029, donc ça va être c'est une consultation générale et des auditions publiques?
C'est ça, c'est une consultation publique. On peut déposer des mémoires. Moi, je l'avais fait en 2023, donc j'avais... Ben, en fait, à l'époque, c'était les 12 recommandations de mon livre qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », qui était la chronique de l'actualité de 2018 à 2023 en immigration. Donc, ça venait avec des recommandations. Là, j'ai pas réécrit de livre cette année, mais j'ai 10 recommandations. C'est un exercice que j'avais fait aussi en 2018 puis en 2022 aux élections générales. Voici ce que le prochain gouvernement devrait faire en immigration. On m'écoute pas toujours, mais on m'a quand même déjà suivi. Exemple, quand je suggérais au gouvernement de rembourser les frais de traitement pour les 18 000 dossiers de travailleurs qualifiés qui étaient encore non traités en 2018, rembourser les gens pour les inviter à déposer dans la nouvelle plateforme là, qui s'appelle Arima. Le gouvernement m'a suivi là-dessus, là, donc on me lit.
Mais plus, ben c'est ça, mais plus les choses avancent, Maxime Lapointe, Maître Lapointe, vous êtes à la télé, vous êtes à la radio, vous écrivez aussi des lettres d'opinion, vous faites des mémoires, vous commencez à faire énormément de bruit, donc ils vont vous écouter de plus en plus. Le gouvernement déteste mal paraître.
Bon, en tout cas, il y a encore l'occasion de se rattraper là, en matière de travailleurs étrangers. Dans voilà. Ce qui manque en immigration, c'est de la prévisibilité. Là,
exact.
Donc, c'est triste pour les travailleurs qui arrivent ici. Je vais donner l'exemple de mon adjointe Nadine au bureau. Ça fait deux fois que le programme de résidence permanente ferme avant qu'elle puisse déposer un dossier. Elle est venue ici avec son mari. Elle fait un cours pour être adjointe juridique. Son mari travaille, des gens qui sont ici depuis plusieurs années. Les règles n'arrêtent pas de changer. Donc, moi, ce que je demande dans mes recommandations, vous avez le mémoire devant vous, c'est un engagement de prévisibilité du gouvernement. C'est-à-dire, la journée où vous entrez au Canada avec un statut temporaire, mais les règles de résidence permanente devraient être les mêmes pendant tout votre parcours d'immigrant temporaire. Parce que là, il y a trop d'avance-recul. C'est ça qui crée de l'anxiété là, généralisée chez tous les immigrants au Québec.
Maître Lapointe, pour les entreprises qui veulent avoir un avocat en immigration ou encore pour les gens qui, justement, veulent un avocat pour leur dossier d'immigration, on vous contacte chez Maxime Lapointe et Associés, bureau d'avocat?
Oui, absolument. Très facile à trouver sur Google. Sinon, www.mlaimmigration.com, il y a une plateforme pour prendre des rendez-vous.
Merci beaucoup, Maître Lapointe.
Avec plaisir, merci.
Au revoir, bye-bye. Ça a-tu de l'air d'un processus complexe? Mettons que tu n'as pas d'avocat, là. Ça a-tu de l'air d'un processus complexe quand tu as une entreprise puis tu veux faire venir des gens de l'extérieur ou encore quand tu es immigrant puis tu veux régulariser ta situation? Ça a l'air tellement compliqué.
Dans les deux cas, juste le premier, l'entreprise, comme je m'étais fait dire, il faut que tu prouves qu'il n'y a aucun Québécois qui sera capable de remplir ces tâches-là dans le sens où tu as envoyé plein d'offres d'emploi partout. Tu en as mis ces babillards du dépanneur de ton coin de rue. Tu as tout essayé puis tu n'as personne qui fait ce job-là. Juste ça, là, c'était rintant. Mais c'est même pas le 1% de toutes tes demandes. Puis pour l'employé, imagine, t'arrives ici, c'est pas, peut-être pas ta langue, pas ta culture, pas ci, pas ça. Ou tu veux juste travailler.
Puis la réunification aussi pour, mettons, des buts familiaux, là. Tu sais, le monsieur qui veut faire venir sa madame de Cuba, tu sais, ça me surprend pas que dans plusieurs des cas, quand les agents les questionnent à savoir, bon, est-ce que c'est un vrai mariage, c'est un mariage arrangé, c'est-tu pour juste émigrer et tout ça, ça me surprend pas qu'il y ait plein de dossiers qui tombent, là. Mais c'est parce que ça fait travailler des fonctionnaires pour rien.
Mais
ça fait travailler aussi des avocats aussi pour rien.
Ça, c'est sûr. Ça embourbe le système. C'est une semi-fraude amoureuse pour de l'immigration. Mais je te le dis, ça doit être quand même saisissant. C'était vraiment en amour avec la personne puis que c'est pas une fraude amoureuse. Tu sais. Mais s'ils sont rendus à le demander aussi rapidement en se disant il n'y a pas de droit qui va empêcher cette question-là, c'est que c'est récurrent.
Pour ce qui est du regroupement familial, là, donc le regroupement familial, ça peut être tu fais venir ton frère, ta soeur, tes enfants, ton père, ta mère et tout ça, mais tu peux faire venir aussi ton amoureuse, la femme que tu as épousée dans un autre pays ou l'homme que tu as épousé dans un autre pays. Si on fait rien, là, ce que Maître Lapointe met dans son mémoire, c'est qu'actuellement, le délai va passer de 40 mois à 80 mois.
Hey, comptez le nombre d'années. On a 12 mois dans une année. C'est
là,
plusieurs années.
Tu as
le temps de changer de plan 150 fois.
Ton plan de faire venir Brad Pitt au Québec, hey. Pascal, 80 mois. Là. Fait que prends-toi d'avance.
Non, il me tire le bras, mais c'est parce que quand je vois la rencontre entre Trump et Zelensky, moi, j'attends. Là.
OK,
j'y
ai
dit pas
pause.
Tout de suite.
13h25, on vient. Marceau.